C'est probablement l'histoire la mieux connue de toute la Bible. Je me dis que de nos jours, il y a peut-être de plus en plus de gens qui ne connaissent pas la vraie histoire de Noël, mais qui connaissent l'histoire de David et Goliath. La bonne nouvelle, c'est plus ou moins la même histoire. Donc si vous connaissez et maîtrisez l'histoire de David et Goliath, vous allez aussi comprendre et maîtriser l'histoire de Noël. Alors, on n'a pas tout lu dans le chapitre 17, mais si vous avez l'occasion de replonger dans ce texte, vous remarquez immédiatement que le récit est particulièrement long et très riche en détails, beaucoup de dialogues aussi, des paroles qu'on met dans la bouche de Goliath, dans la bouche de David. Donc un récit qui est très long, riche en détails, en dialogues, et il faut savoir que dans l'hébreu, où généralement on trouve une certaine économie de paroles, cela est important à retenir. Visiblement, cet auteur pense que cette histoire est importante, fondatrice, pour comprendre David et l'histoire de la suite de sa vie. Non seulement c'est une histoire fondatrice pour la vie de David, mais je dirais pour nous aussi, pour l'Occident. Si vous regardez bien, l'Occident a plus ou moins adopté cette histoire comme son schéma de base. C'est le schéma classique pour décrire toute personne ou tout groupe qui surmonte des obstacles invraisemblables pour remporter la victoire contre un adversaire. 90% des films au cinéma suivent cette histoire, s'inspirent de cette histoire, consciemment ou non. En Europe, tout le monde connaît le village menacé par le géant, l'ogre, le dragon, avec le roi qui promet d'offrir la main de sa fille à celui qui tue le dragon, ou l'ogre, ou le géant, et le combler de richesses. Ils suivent exactement cette histoire, comme vous avez bien vu. Alors d'où vient qu'on aime tant cette histoire? D'où vient que mes enfants ont immédiatement accroché avec l'histoire de David et Goliath? Parmi toutes les histoires de la Bible, d'où vient qu'on aime tant cette histoire? C'est un peu la question que je pose ce matin. Parce qu'au fond, le schéma de l'évolution, auquel beaucoup adhèrent, le schéma de l'évolution ne nous porterait pas à aimer cette histoire et à favoriser David, à apprécier le petit David qui remporte contre Goliath. Dans le schéma de l'évolution, il ne faudrait pas que le faible écrase le fort trop souvent. Sinon, ça ne marche pas et on ne sera pas là aujourd'hui. C'est mieux quand le fort écrase le faible, pas quand le faible écrase le fort. Mais on se passionne quand même des histoires où le faible remporte contre le fort. C'est intéressant. Ou bien, quand vous pensez à l'ancien esprit des ancêtres européens, l'esprit viking, leur penchant naturel aurait voté pour Goliath. Ce aurait été leur héros, la manière qu'il s'est présenté. Ils auraient préféré que lui, il gagne. Mais aujourd'hui, quasiment tout le monde aime bien les histoires où c'est le David, le petit David, qui remporte et qui gagne contre le Goliath. D'où vient qu'on aime cette histoire? Ça m'a fait un peu rire parce que là, pendant que j'étais en Californie, ces derniers jours, c'était le championnat de baseball. Vous connaissez le World Series, qui n'a aucun sens parce que ce n'est pas le monde entier qui est impliqué dans ces matchs, c'est juste les États-Unis. Mais il faut dire que là-bas, ça prend l'ampleur de la Coupe du Monde comme ça peut être en France. Alors les deux équipes qui se sont affrontées dans ce championnat de baseball, c'était les Géants, Giants de la ville de San Francisco, contre une autre équipe qui s'appelle les Royals, les Rois, les Royals. Et il faut dire que moi, j'étais content que les Giants gagnent, parce que c'est la ville de San Francisco. Donc effectivement, je me suis écarté un peu de l'histoire. J'ai préféré les Giants contre les Rois. Mais hormis cette exception, je pense que nous pouvons tous dire, nous avons une place dans notre cœur pour David et cette histoire nous interpelle et nous passionne. Pourquoi? Eh bien, C'est ce que nous voulons découvrir ce matin. Je pense que cette histoire a été donnée au peuple de Dieu, le peuple juif, mais aussi le peuple de Dieu à travers les générations, pour leur donner envie de suivre un tel héros, un héros comme David, un tel roi. Et voilà ce que nous allons voir ce matin, que l'auteur dans cette histoire met l'accent sur plusieurs choses. Premièrement, le champion, la notion d'un champion, un héros. Ensuite, sa taille, ses armes et sa victoire. C'est ainsi que nous allons aborder l'histoire de David et de Goliath. Donc, commençons d'abord par l'accent que cet auteur met sur le champion, la notion d'un champion. Le récit en chapitre 17 commence avec cette mise en scène géographique avec les deux camps séparés d'une vallée. Et puis on dit en verset 4 qu'un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath et il était de Gath. En fait, c'est un peu dommage, notre traduction seconde traduit différemment, mais quasiment toutes les traductions disent, en verset 4, « Il sortit du camp des Philistins un champion. » Et littéralement, c'est une phrase unique en hébreu, c'est deux mots qui sont mis ensemble. Et littéralement, la phrase « champion », c'est « un homme entre deux camps ».« Un homme entre deux camps ». Parce que c'est ce qui va se passer, un homme va sortir entre les deux camps pour mener la bataille. Alors, Second a séparé ces deux mots, il a mis les deux camps, les deux armées, plus loin dans la phrase. Mais, quasiment toutes les autres traditions maintiennent cette phrase unique en hébreu, un homme entre deux camps, un homme entre deux armées. Et c'est traduit champion dans la plupart des cas. Alors, c'est ça l'aspect particulier et fascinant de cette histoire, c'est qu'au lieu de s'affronter toute l'armée, au lieu d'envoyer tout le monde sur le terrain, on envoie un homme qui va représenter son peuple et qui va donc avancer entre les deux camps. Un homme entre deux camps. Un champion pour chaque armée. Quelles sont les règles du jeu que Goliath propose en verset 8 notamment? Choisissez un homme qui descend contre moi, s'il peut me battre et qui me tue, nous vous serons assujettis. Si je l'emporte sur lui, que je le tue, vous nous serez assujettis, vous nous servirez. Cette pratique n'était pas très commune à l'époque, mais ce n'était pas non plus inconnu. On a d'autres histoires dans la Bible où effectivement ils choisissent un homme pour se battre contre un autre homme, et c'est ça qui décide le combat. Alors, on nous décrit le champion des Philistins, c'est Goliath. C'est intéressant parce que pendant une bonne partie du récit, il est toujours appelé le Philistin. C'est le représentant des Philistins et donc on va l'appeler le Philistin. C'est le Philistin par excellence. Voilà le Philistin. Les Philistins, toujours dans la Bible, sont les ennemis du peuple de Dieu. Donc le Philistin, il incarne, il représente l'ennemi du peuple de Dieu. Et puis, en verset 10, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. » Là encore, le mot « défi », c'est plutôt outrage, insulte, reproche. Et c'est ce que David a compris tout au long de ce chapitre, que ce qu'il fait, il nous outrage, il nous reproche, il nous accuse, il nous outrage par sa manière de parler, par son attitude, par son orgueil, par sa manière de vouloir nous rendre esclaves. C'est un insulte, c'est une reproche contre le peuple de Dieu. Donc ça, c'est le champion des Philistins, Goliath, que vous connaissez bien. Alors maintenant, il faut choisir un champion, bien sûr, un autre homme entre les deux camps, un autre homme qui va représenter le peuple Israël. Alors, qui sera le champion du peuple de Dieu? Eh bien, le choix naturel, ici, ça aurait été Saül. Saül, c'était le chef de l'armée. Il devrait, pourrait représenter le peuple. En plus, on sait que Saül était plus grand que tous les autres. Chapitre 9, verset 10, que Saül dépassait tout Israël d'une tête. Et alors voilà Goliath qui est grand. Autant envoyer un homme grand contre lui, le plus grand des Israélites, c'est Saül. Mais le verset 11 dit que Saül et tout Israël étaient effrayés et saisis d'une grande crainte. Donc Saül, au lieu de pouvoir conduire son peuple dans la victoire, il est conduit dans la peur, dans la défaite, dans l'échec. Là, une question peut-être peut se poser, peut-être vous l'êtes posée, vous allez le poser. Où donc est Jonathan? Vous connaissez Jonathan, c'est le fils aîné de Saül. Plus tard, ce serait l'ami de David dans le chapitre suivant. Jonathan, c'est un des grands personnages, peut-être discrets de la Bible, mais un vrai héros de la Bible. Sa destinée était autre que celle de David, mais vraiment, par sa loyauté, sa fidélité, son courage, on reconnaît Jonathan comme quelqu'un de la même trempe que David. Alors, où était Jonathan? Pourquoi ce n'est pas lui qui est allé affronter Goliath? La Bible ne dit rien, donc c'est que des spéculations. Mais beaucoup pensent que la meilleure explication, c'est que son père l'a empêché, l'interdit d'aller au champ de bataille. Parce qu'on connaît Jonathan, il n'avait pas peur d'affronter lui tout seul les Philistins. Dans le chapitre 14 de 1 Samuel, que nous n'avons pas étudié, mais le chapitre 14, où on découvre un peu mieux Jonathan, un jour, il est tout seul avec un jeune qui porte ses armes et il dit « Viens, poussons jusqu'aux portes des Philistins, qui est là de l'autre côté. » Et le verset précise qu'il n'a rien dit, il n'en a rien dit à son père. Quand Jonathan sait qu'il faut faire un geste courageux, attaquer les Philistins, il ne dit rien à son père. Certainement, son père l'aurait arrêté. Parce que Saül, déjà, il a la prophétie de Samuel que son royaume va lui être arraché, donné à un autre, mais il s'y accroche quand même. Et comme un père, on peut comprendre, il ne veut que rien n'arrive à son fils. Il doute bien que si son fils avance contre Goliath, ce serait dangereux. Donc, probablement, il interdit à Jonathan de faire un tel geste. Alors, ce ne serait pas Saül, ce n'est pas Jonathan. Donc, qui sera ce champion pour le peuple de Dieu? Eh bien, ça va être David, le petit berger de Bethléem. Évidemment, un choix étonnant. Mais c'est David qui va dire que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, j'irai tout seul me battre contre lui. Alors, vous voyez, c'est David qui va être le champion. C'est David qui va être cet homme entre les deux camps. David sera le représentant. Et c'est là où on commence à comprendre la beauté et la force de cette histoire. Parce qu'il commence à dévoiler les grands thèmes bibliques. Bien souvent, on a dit aux chrétiens, vous devez être comme David. Si vous voulez terrasser les géants et les problèmes dans votre vie, faites comme David et par votre courage, votre intelligence, votre présence d'esprit, votre agilité, vous pouvez, vous aussi, réussir comme lui. Mais ce n'est pas vraiment ça la leçon principale de l'histoire. Si vous voulez savoir à qui nous ressemblons vraiment dans cette histoire, nous ressemblons plutôt aux Israélites, les soldats, le camp des Israélites, craintifs, perdus, esclaves de l'ennemi. Notre représentant naturel, notre champion, le premier choix, c'était Adam, qui était là comme notre représentant contre le mal, contre le péché, contre la tentation. Mais Adam nous a conduit dans la défaite, dans l'échec. Alors, nous avons besoin d'un champion. Nous avons besoin d'un représentant. Nous avons besoin d'un homme entre les deux camps. Alors c'est vrai que en Occident, nous ne sommes pas très habitués à cette notion d'un représentant, d'un champion. Dans notre esprit, dans notre pensée, c'est chacun pour soi. Moi, je n'ai pas connu Adam, je n'ai pas choisi d'être descendant d'Adam. Alors, ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden, ça ne me regarde pas. Chacun pour soi. Mais ce n'est pas ça les règles du jeu, déjà, de ce monde créé, de cet univers. Et puis, bien d'autres cultures, à bien d'autres époques, comprennent très bien cette notion d'un représentant et peuvent peut-être mieux saisir cette histoire que nous. Mais les règles du jeu pour notre éternité, pour notre vie spirituelle, c'est que voilà, il faut un champion pour nous représenter. Ça a été Adam, il a échoué. Alors nous avons besoin de quelqu'un qui peut nous délivrer. Nous avons besoin de quelqu'un qui peut affronter le malin, affronter celui qui nous outrage, qui nous reproche, qui nous insulte, qui veut nous garder esclaves dans la crainte et la peur. Et ça, c'est la bonne nouvelle, cette notion d'un champion. Parce que, heureusement, si on devait nous-mêmes affronter tous les géants, tout le géant du mal et de la mort et du péché, ce serait l'échec, ce serait la défaite, tout comme Adam. Alors il nous faut un champion. Et cette histoire nous prépare à comprendre ce que Jésus va faire plus tard. Donc saisissez bien déjà cette notion d'un champion, un représentant, puisque c'est ça les règles du jeu de notre vie et de notre éternité. Ensuite, on nous introduit au champion, notamment des Philistins, Goliath, et celui qui va l'affronter, David. Ensuite, cet auteur met l'accent sur la taille. Bien sûr, l'aspect principal de Goliath, c'est que c'est un géant, c'est la grandeur de sa taille. Verset 4, il avait une taille de 6 coudées et un empan, c'est-à-dire un peu moins de 3 mètres. Voilà, il fait 3 mètres, alors c'est très grand. Sans être fantaisiste, ça, dans l'histoire de l'être humain, on a pu trouver de telles tailles, des aberrations, certes, mais ce n'est pas impossible. Mais voilà, son aspect, ce qui frappe le regard de première vue, c'est sa taille. Goliath, c'est grand, c'est imposant, c'est énorme. Maintenant, Goliath, c'est synonyme de gigantesque. Et l'auteur met ça en avant. Et puis à côté, on nous présente David. Et là aussi, l'aspect que la plupart des gens remarquent, c'est aussi sa taille. Mais c'est tout le contraire. C'est un enfant, un petit enfant. Quand son frère le voit, quand Eliab, son frère aîné, le voit, il se moque de lui. Et il dit en verset 28, « Pourquoi es-tu descendu à qui tu es laissé ce peu de brebis dans le désert ?» C'est qu'un petit berger avec un petit troupeau. Quand Saül le voit, verset 33, il dit, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Donc, encore la réaction de Saül, c'est de dire, t'es petit, t'es trop jeune, t'es un enfant. Et puis, quand Goliath le voit, même réaction, il le méprisa. Verset 42, le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant. Donc autant on met l'accent sur la taille de Goliath, sa grandeur, autant les gens remarquent la taille de David, son aspect, c'est la petitesse, la jeunesse, la faiblesse. Tout le monde qui a vu David trouvait que son aspect n'avait rien pour leur plaire. Et d'ailleurs, j'ai trouvé intéressant, le mot Goliath signifie splendeur. Donc, oui, Goliath veut dire grand, mais aussi Goliath, splendeur. Et combien souvent c'est représentatif de ce monde. Ce monde met en avant sa splendeur et s'y réfugie. Le monde trouve une protection dans sa splendeur, sa grandeur. Puis pensez, si on vous aurait, si vous étiez là ce jour et qu'on vous aurait donné le choix, dans quel camp préfériez-vous être? Le camp des Philistins ou le camp des Israélites? Ça aurait été difficile de ne pas choisir le camp des Philistins, vu la taille et la force de Goliath. C'est sûr, la cause des Israélites, c'était une cause perdue d'avance. C'était une cause perdue d'avance. Mais des causes perdues d'avance qui triomphent à la fin, c'est la spécialité de Dieu. Des causes perdues qui triomphent à la fin, c'est la spécialité de Dieu et c'est l'histoire de la Bible. Alors nous, voici nous les chrétiens, pour regarder l'église de Jésus-Christ dans le monde, en France, et dire ça, c'est une cause perdue. Et nous on dit Amen. C'est vrai qu'on regarde l'évolution des mœurs de nos jours avec la redéfinition de la sexualité. Cela semble pour nous une cause perdue d'avance. Mais cette histoire nous interpelle, nous avertit. Dans quel camp voulons-nous être finalement? Est-ce que vous êtes sûr de votre coup en choisissant ce qui est grand, ce qui est splendeur? Faut-il toujours se ranger du côté de la majorité? Faut-il toujours regarder aux apparences? Nous connaissons le reste de l'histoire de la Bible, mais Jésus, il s'est fait petit enfant. Il est vu dans le monde, et comme dit le cantique, aux sagesses profondes, le Créateur du monde, pour vaincre le mal triomphant, s'est fait petit enfant. C'est ce qu'on a vu en David, petit enfant, et ce qu'on a vu en Jésus, petit enfant. Son aspect à Christ n'avait rien pour nous plaire, dit Ésaïe. Et sur la croix, tout le monde a pu dire, ça c'est une cause perdue. Amen. Une cause perdue qui triomphe à la fin, tout comme David. Donc la taille, les détails qui ressortent ici, nous interpellent et nous préparent à reconnaître le vrai roi, celui que nous voulons suivre et choisir pour notre champion. Mais il s'est présenté comme un petit enfant. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et pourtant, c'était celui qui allait remporter. Ensuite, regardons ses armes. On a vu la taille du champion. Maintenant, voyons ses armes. Alors, comme j'ai déjà dit, cette histoire est bourrée de détails. Très intéressant. Beaucoup pourraient penser que cette histoire n'est qu'une légende, mais les légendes de l'époque n'ont pas ce niveau de détail. On parle des quantités de fromage que David va apporter à ses frères, 10 fromages. Vous connaissez le nombre de cailloux que David va ramasser, 5. Le nombre de jours que Goliath va accuser, reprocher les Israélites, c'est 40 jours. Mais surtout, les détails qui nous intéressent, c'est les mesures, notamment dans la description des armes et de l'armure. Et c'est encore une manière que l'auteur veut attirer notre attention. Ça semble être un grand thème de ce récit, notamment l'armure. Alors vous avez Goliath de son côté, regardez tout ce qu'il a, versets 5, 6 et 7. Et il a tout ce qui va bien, la casque, la cuirasse, le lance, l'épée, le bouclier. Déjà, entre l'armure et le javelot, si on convertit les poids, les mesures, il y en a pour 62 kilos. Sans parler de la casque, l'épée, et même quelqu'un d'autre qui va porter son bouclier. Alors, au moins sur lui, il y en a pour 70 kilos. Alors récemment, j'ai un repère, j'ai dû faire les valises dans la soupe, vous savez, c'est toujours 23 kilos. Ceux qui ont fait des voyages missionnaires avec nous, c'est toujours 23 kilos. Alors, déjà, trois valises comme ça sur soi, on voit la grandeur et la force de Goliath. Si l'auteur raconte tout cela, c'est aussi pour faire un contraste avec les armes et l'armure de David, évidemment. Connaissez comment, d'abord, il a déjà essayé les armes, l'armure de Saül, hein, verset 38. Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David saignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je ne suis pas habitué, et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres pour lui, et les mit dans sa gibicière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Voilà, pas d'armes traditionnelles, pas d'armure, juste une pierre et une fronde. Et c'est ainsi qu'on va raconter sa victoire, verset 48. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibicière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Vous voyez l'accent qu'on met sur les armes. Sans avoir d'épée à la main. Une petite ronde, une petite pierre. Tout ça pour nous rappeler que les méthodes, les stratégies du monde, ce n'est pas par ces choses que Dieu sauve. Le monde aime bien se réfugier lui aussi dans sa force. L'argent, le pouvoir, la réussite, l'intelligence, tout comme l'armure de Goliath. Mais ce n'est pas par ces choses que Dieu sauve, c'est par des armes inhabituelles, étonnantes, les armes que Jésus a prises pour remporter. Les armes de Jésus, c'était l'amour, c'était le pardon, c'était le sacrifice, c'était la croix. Mais c'est ainsi qu'il a infligé une inguérissable blessure à la mort pour nous délivrer. Donc, plus tard, quand on lit comment Jésus a agi, comment lui l'a fait, on ne s'étonne pas qu'il a remporté la victoire ainsi. Enfin, j'aimerais parler de la victoire finale, l'issue de ce combat. Bien sûr, vous connaissez l'issue du combat. Maintenant, on est presque habitué à savoir que les David remportent contre les Goliath. Donc, vous connaissez l'issue du combat, vous connaissez la victoire. David a gagné. Connaissez-vous la leçon que toute cette multitude ce jour et toute cette multitude ici doit retenir? C'est ça la question. Vous connaissez l'issue du combat. Connaissez-vous la leçon à retenir de cette victoire? On pourrait dire la leçon, c'est qu'il faut être courageux, astucieux, audacieux comme David pour réussir dans la vie. Mais si on retient cette leçon, on repart plus ou moins avec l'attitude de Goliath, fier de lui-même, dans sa force. Non, la leçon que David voulait que tout le monde retienne, on la trouve en verset 47, juste avant 46, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Verset 47, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car, voici la phrase clé, la victoire appartient à l'Éternel. La victoire appartient à l'Éternel, la victoire vient de l'Éternel. Ça veut dire, est-ce que vous avez appris cette leçon? La victoire appartient à l'Éternel. La victoire n'appartient pas à toi, ne vient pas de toi, mais de l'Éternel. Et si on se place dans cette histoire, comme les soldats d'Israël, là on peut mieux comprendre ce que Jésus a fait pour nous. Qu'ont fait les Israélites pour remporter la victoire? Qu'est-ce qu'ils ont contribué à la défaite de Goliath? Rien. Qu'avez-vous fait pour contribuer à votre salut, à la victoire sur le péché dans votre vie? La réponse juste, c'est rien. C'est Christ qui est allé à votre place, à ta place. Regardez verset 51. David courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite, et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusqu'à dans la vallée, jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin de Shakarim jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. Eux, ils n'ont rien fait contre Goliath. C'est David qui a tout fait. Mais ils participent aux fruits de sa victoire et jouissent de la victoire avec lui. C'est tout comme nous. Nous n'avons rien fait pour remporter contre le malin, contre le péché, contre le mal, contre la mort. C'est Christ qui a tout fait, mais il nous fait participer à sa victoire et nous pouvons nous lancer à sa suite et chanter d'allégresse. Ce qui m'a marqué cette fois en lisant, c'est de voir à quel point David était complètement assuré de l'issue du combat, de sa victoire. Même avant, il dit à Saül en verset 36, il parle de ce qu'il fait aux lions et aux ours en tant que berger, et puis il dit, il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Verset 46, quand il est face à Goliath, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Il n'y a aucun doute dans la pensée de David de l'issue de ce combat, parce que le combat, il le sait, ne dépend pas d'Israël, du peuple de Dieu. Le combat dépend de Dieu, vient de Dieu. Et c'est pareil dans notre salut. Si ça dépend de nous, difficile à avoir l'assurance de l'issue du combat. Mais si tout est décidé par Dieu, par le champion de Dieu, par Jésus-Christ, il y a une pleine assurance que nous pouvons tous avoir sur comment ça va se passer, sur la victoire garantie. Alors maintenant, vous savez pourquoi cette histoire est si appréciée et retentit si fortement dans le cœur humain. C'est parce que c'est l'histoire que Dieu veut écrire de tous les temps. C'est l'histoire que Dieu veut écrire avec votre vie aussi. C'est l'histoire de la rédemption, c'est l'histoire de la Bible. C'est l'histoire dans laquelle il nous invite à participer. En tant que, premièrement, observateur de la victoire de Jésus-Christ sur le mal et la mort et notre péché, et puis il nous invite à partager cette victoire. Alors, choisissez votre champion. Choisissez votre champion. Et cette histoire nous apprend à choisir le petit berger de Bethléem. Prions.